Le lendemain matin, en embuscade autour d'un gnama, la task force surprit un groupe d'une quarantaine d'émeus qu'elle mitrailla presque à bout portant, en tuant une dizaine sur le coup. Jim et Aloysius prirent leurs chevaux pour achever les blessés. Ils s'arrêtèrent à l'endroit où gisaient les oiseaux. Si de loin cela semblait bel et bien avoir rendu l'âme, force leur fut de constater qu'en fait il n'en était rien. Près de la moitié respirait encore. « Il n'y a qu'une seule façon de tuer un émeu, » dit Jim en descendant de cheval et en sortant son revolver. « Il faut leur tirer derrière la tête si la bouche est fermée ou dans la bouche si elle est ouverte. » Aloysius ne fit aucun commentaire, se contentant de regarder tout en resserrant la bride de sa monture. Jim remonta en selle et ils repartirent. Il leur fallut chevaucher près d'un kilomètre avant d'apercevoir un émeu titubant sévèrement. Jim sortit son fusil de son étui, mais l'oiseau s'effondra avant même qu'il ne presse la détente. « Je vous laisse l'achever !» s'exclama Jim. « Non, s'il vous plaît, faites-le, vous serez gentil. » Jim n'insista pas. Ils s'approchèrent de l'oiseau. Celui-ci avait de multiples blessures et plusieurs balles l'avaient même transpercé de part en part. « C'est incroyable qu'il ait pu aller si loin quand on voit l'état dans lequel il se trouve, » dit Jim. « Achevez-le, » répondit Aloysius. Jim rapprocha encore un peu sa monture de l'oiseau et prit son revolver. Dans un ultime instinct de survie, l'oiseau donna des coups de bec en direction du bras armé qui s'approchait. Jim pressa enfin la détente et foudroya l'oiseau. Ils chevauchèrent encore un bon moment, mais n'aperçurent pas le moindre émeu blessé. « C'est quand même bizarre, » dit Jim. « Où sont-ils passés ?»« Je vous l'avais bien dit qu'il ne serait pas si facile que cela d'achever les blessés. Ils peuvent courir pendant des heures avant de tomber ou se dissimuler dans les broussailles épaisses du bush pour y mourir. » Un grand goanna de près de 2 mètres détala à toute vitesse à l'approche des chevaux pour se réfugier dans un terrier. Jim entendit soudain un vrombissement et se retourna. Il aperçut au loin le camion d'un fermier qui roulait dans leur direction. « C'est le camion d'Andrew Johnson !» s'exclama Jim. « Je sais pas ce qu'il fout là !»« On dirait qu'il nous a suivis !» ajouta Aloysius. « Je me demande bien ce qu'il peut vouloir. » Un grand type maigre mais musclé, coiffé d'un panama à ruban noir et qui ressemblait un peu à Humphrey Bogart, descendit du véhicule. « Alors, les gars, vous en avez abattu beaucoup ?»« Un seul, » répondit Aloysius en faisant grise mine. « Comme moi, et j'ai même pas eu besoin de gaspiller une balle. Je l'ai renversé avec le camion. » « Il est derrière, si vous voulez le voir. »« Pourquoi faire ?» lança Jim. « On sait ce que c'est qu'un émeu. »« Jetez-y quand même un coup d'œil. Vous serez peut-être étonné. » Jim approcha son cheval du chevitroc et pencha la tête. « Bah quoi, c'est un émeu. Je ne vois pas ce qu'il a de spécial. » Andrew Johnson coupa le moteur et sortit du véhicule. D'un bond, il sauta sur la plateforme arrière et saisit l'émeu par le cou pour le redresser. L'homme et l'émeu faisaient presque la même taille. Aloysius comprit tout de suite ce que voulait leur montrer le fermier. « Regardez ça, il avait 5 balles dans le corps et il pouvait encore courir. Et ça date pas d'hier. Vous avez vu les blessures, elles sont déjà à moitié refermées. » En forçant un peu, le fermier fit pénétrer son index dans l'orifice creusé par un projectile. « Aucune ne date de ce matin ?» interrogea Jim. « Si, 2, mais elles ont pénétré par l'autre flanc. C'est d'ailleurs pour ça que je suis plein de sang. » Aloysius monta à son tour dans le camion pour examiner les blessures. Celles-là ont dû être faites dès le début des hostilités, il y a près de 2 semaines. Vous vous rendez compte? Il avait survécu à deux mitraillages. Il a raison, ce député travailliste qui réclame qu'on décore les émeutes. Jim, que la boutade aurait pu froisser, éclata au contraire de rire. Le fermier eut un petit sourire pincé. Plus sérieusement, reprit Aloysius en s'adressant à Jim, vous comprenez maintenant pourquoi je doutais du succès de notre mission. Le pourcentage d'oiseaux blessés que nous pouvons achever est ridicule. Andrew Johnson était remonté dans son camion et s'apprêtait à partir. Il fit un signe de la main aux deux hommes. « Allez, bonne chance, et ne les tuez pas tous. Laissez-en quelques-uns pour les mots croisés et pour les armoiries de l'Australie. »« Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» demanda Jim en se protégeant du nuage de poussière. Pour toute réponse, Aloysius hocha la tête et marmonna. « Rien, c'était de l'humour bushman. » Le lendemain fut un mauvais jour pour les hommes de Meredith. Les émeutes sont restées hors de portée des mitrailleuses. Ils ont alors essayé de les tirer au fusil, mais sans grand résultat. La veille, en fin d'après-midi, ils avaient mitraillé un groupe de 30 à 40 individus qui se trouvait à 1700 mètres environ, à proximité d'un réservoir naturel. Jim et Aloysius décidèrent d'aller y faire un tour. L'endroit avait la forme d'une petite combe, avec au fond du repli rocailleux une eau souillée par le cadavre d'un dromadaire. « Il est descendu boire, mais il n'a jamais pu remonter !» s'exclama Aloysius. « C'est pas la première fois que je vois ça. La soif pousse les bêtes à prendre de grands risques. » « J'ai remarqué qu'on voit de plus en plus de dromadaires dans le désert, » dit Jim. « C'est pas étonnant. Les chameliers les relâchent plutôt que de les tuer. Les véhicules à moteur ont signé leur arrêt de mort. On les a importés au XIXe siècle. Ils ont été très utiles pour le transport des marchandises, mais aussi pour la cartographie. L'ironie de l'histoire, c'est que deux des plus grandes contributions des chameliers afghans, The Gan Railway et la ligne télégraphique trans-australienne, allaient les rendre inutiles et amorcer leur déclin. « Et maintenant, on les abandonne et ils retournent à l'état sauvage !» ajouta Jim. Aloysius acquiesça d'un signe de tête. « Et à la vitesse où ils se reproduisent, on peut prédire que leur avenir s'écrira en lettres de sang. Comme pour le renard et les lapins, on ne sait plus comment s'en débarrasser. On est vraiment champion pour les conneries. Nous sommes responsables de la disparition d'un grand nombre d'espèces endémiques. C'est très grave et pourtant nous nous en foutons. L'homme est un vrai danger pour la planète. » « Oh là, pas la peine de vous énerver après moi. Vous prêchez un converti. J'ai participé à la bataille de la Somme. Alors je sais de quoi l'homme est capable. » À ce moment, Jim prit son visage dans ses mains et se mit à pleurer à chaudes larmes. « Descendez de cheval, ça ira mieux, » lui dit Aloysius. « Non, non, ça va aller, laissez, ça m'arrive de temps en temps. Des images qui remontent, j'ai vu tant d'horreurs. » Aloysius regardait Jim. Il ne faisait pas son âge. Il y avait quelque chose d'enfantin dans son visage. La guerre l'avait privé d'adolescence, et les poussées d'acné ne se manifestaient que maintenant. Jim sanglotait toujours. Il accepta le mouchoir que lui tendit Aloysius et s'essuya le visage. « Je dois avoir l'air con. »« Non, » répondit simplement Aloysius. « Vous savez, une des choses qui m'a le plus marqué là-bas, c'est que même les oiseaux ne chantaient plus. C'était vraiment l'enfer. Maintenant, quand je n'entends plus le chant des oiseaux, j'ai peur. L'autre jour, d'ailleurs, il m'est arrivé une chose étrange. Nous faisions le guet autour d'un point d'eau, et j'écoutais le chant des diamants mandarins. Soudain, des émeux sont apparus et les diamants mandarins se sont tus. J'ai commencé à avoir peur et à trembler comme une feuille. Je n'arrivais pas à me contrôler. Normalement, très vite, les diamants mandarins auraient dû se remettre à pousser leurs petits cris, mais ils restaient silencieux et les émeux n'osaient pas s'approcher de l'eau. Je les observais dans mes jumelles et voyais leur nervosité. Je ressentais leur peur et la mienne ne faisait que croître. C'est alors que j'ai compris que par leur silence, les petits oiseaux signalaient aux émeux notre présence. C'est possible, dit Aloysius en réfléchissant. Je n'ai jamais remarqué ce comportement, mais je suis loin de tout connaître. Le pluvian d'Égypte signale bien aux crocodiles la présence du varan. Alors pourquoi pas ? Comment cela ? Interrogea Jim qui retrouvait des couleurs. Le pluvian d'Égypte fait son nid à côté de celui du crocodile. Et quand ce dernier part s'alimenter, le pluvian monte soigneusement la garde, se mettant immédiatement à pousser des cris si un intrus approche. On raconte aussi qu'il nettoierait les dents du crocodile des parasites. Jim sourit. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'une forme d'entraide entre animaux. Mais dans ce cas-là, que gagnent les diamants mandarins à prévenir les émeux ? Je ne sais pas. Peut-être que les émeux, de par leur grande taille et leur excellente vue, sont à même de percevoir des dangers que ne peuvent voir les diamants mandarins. Mais ce n'est qu'une hypothèse et rien d'autre. Tout en continuant à discuter, les deux hommes exploraient les pourtours du point d'eau, fouillant les buissons à la recherche d'émeux blessés. Ils ne trouvèrent qu'un nid vide, que les petits avaient déjà quitté depuis plusieurs mois. Aloysius descendit de cheval et ramassa quelques fragments de coquilles. Tu as remarqué comme le nid est bas, c'est rare que les émeux fassent leur nid dans un tel endroit. C'était un signe avant-coureur de la sécheresse qui nous frappe. Oui, fit Jim qui n'avait pas vraiment écouté ce que venait de dire Aloysius. En fait, il avait surtout remarqué que celui-ci l'avait tutoyé. L'avait-il fait exprès ou était-ce involontaire? Devait-il répondre à son tutoiement ou continuer de le vouvoyer comme il l'avait toujours fait? C'est un vieux ranger qui est mort depuis longtemps qui avait remarqué le phénomène et me l'avait expliqué quand j'étais jeune. Il s'appelait Charles McLennan. Il était très connu à l'époque. Il écrivait des chroniques naturalistes qu'il publiait dans l'Argus sous le nom de plume Melly Bird. C'est lui qui m'avait raconté que les émeux semblaient avoir une étrange prescience du temps. Il avait remarqué que les années qui se sont révélées particulièrement pluvieuses, l'oiseau faisait souvent son nid sur des terrains élevés, et ce, bien avant que les pluies ne surviennent. Inversement, lors de saisons exceptionnellement sèches, il n'était pas rare de trouver des nids au fond d'une dépression, comme celui-ci. Comment les émeux peuvent-ils savoir plusieurs mois à l'avance le temps qu'il fera? Cela reste une énigme. En tout cas, il serait plus utile de dépenser de l'argent pour résoudre ce mystère plutôt que pour les détruire. Sans doute, répondit Jim qui ne savait toujours pas s'il devait le tutoyer. Dans l'après-midi, Mr. Georgie Lambert, qui s'occupait depuis son bureau de Perth de gérer les problèmes causés par les émeux, reçut un appel de détresse signé conjointement par les producteurs de blé de Valgoulan et le comité de destruction des émeux de cette même localité. Valgoulan était situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Campion. À l'origine simple voie d'évitement, Valgoulan avait vu le jour entre 1895 et 1899. En 1913, des terrains avaient été mis de côté en vue d'y implanter une petite ville. Il fallut encore attendre 1922 pour que les lots soient arpentés et 1923 pour que les statuts de Valgoulan soient publiés au journal officiel. Une centaine de vétérans de la Grande Guerre étaient venus s'installer là, principalement des producteurs de blé. La saison avait été exceptionnelle, et les agriculteurs comptaient sur ce rendement accru pour compenser la baisse des prix. Mais les émeutes avaient fait leur apparition et toutes les prévisions s'étaient effondrées. Au lieu des 11 sacs de blé à l'hectare espérés il y a un mois, les prévisions les plus optimistes étaient tombées à 4 sacs. Le télégramme disait ceci. Nous avons un besoin urgent des mitrailleuses Lewis et des artilleurs. Un nombre gigantesque d'émeutes fait des dommages incalculables aux cultures. Un peu plus tard dans la soirée, Mr. Georgie Lambert confirma au correspondant du Daily News que les appels de détresse de Valgoulan avaient été immédiatement pris en charge par le Westonia Road Board et qu'une lettre avait été adressée au gouvernement, réclamant de toute urgence la présence des mitrailleuses ainsi qu'un stock important de munitions. Informé, le major Meredith prit la décision de diviser ses forces. L'artilleur Jim O'Halloran resterait dans le secteur de Campion, alors que le sergent McMurray lui-même partirait pour Valgoulan dès que possible. Malheureusement, un nouveau contretemps fit hurler Daniel G. O'Leary, un membre éminent de l'Association des producteurs de blé de Valgoulan. Des personnes avaient négligemment mal refermé les portes de la grande barrière de protection contre les lapins, The Number One Rabbit Proof Fence, situé à l'est de Campion, et un nombre important d'émeutes en avait aussitôt profité pour envahir les terres du district. Cette menace supplémentaire pour la région allait retarder de quelques jours le départ pour Valgoulan.